Vous êtes sur RTL.
18h. Place à l'info tout de suite, RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Emmanuel Macron au chevet de Marseille. Ça y est, c'est parti pour 3 jours de visite. Le président arrive à l'instant dans les quartiers nord pour, je cite, écouter les habitants, et des dizaines de jeunes l'interpellent d'ores et déjà.
Bonjour. Vous allez bien ?
Monsieur le Président, une chose, on est une école abandonnée.
Ouais.
Nous allons suivre ce déplacement avec nos reporters sur le terrain parce que le chantier est immense. La sécurité, 12 morts par balle en 2 mois, mais aussi les écoles, rats, drogue, amiante, fuite d'eau. Les petits Marseillais ont visiblement besoin d'un chèque colossal. Alors le plan du chef de l'État sera-t-il suffisant? La campagne présidentielle est-elle en train de débuter? Nous allons nous interroger dans RTL Soir et on en débattra dès 19h15 autour d'Éric Brunet dans On refait le monde. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal imminent, Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ils veulent leur 3e dose, début de la campagne de rappel aujourd'hui. Déjà 200 000 rendez-vous pris en début de semaine. Les vacances qui tournent au cauchemar pour un restaurateur franco-afghan parti cet été à Kaboul voir sa famille. Il n'a pas pu être exfiltré. Son témoignage à suivre. Et puis le retour des Bleus du foot face à la Bosnie ce soir après l'affront de l'Euro. Les courses à Auteuil, il fallait jouer le 13, le 9, le 1, le 7 et le 10.
Dans un quart d'heure, l'homme qui appelle à manifester contre le gouvernement, Philippe Martinez, leader de la CGT, sera notre invité. Retraite, assurance chômage, passe sanitaire, une rentrée sous tension. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu. Depuis le début de la semaine, ils racontent leur 13 novembre. Des témoignages RTL indispensables à une semaine du procès des attentats. Ce soir, le patron de la belle équipe, sa terrasse a été attaquée. Il a perdu 10 de ses proches. À suivre aussi, Laissez-vous tenter. Dernière, on écoutera le nouvel album de Gauvin Serre. Et puis à 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'actu inattendue avec vous, Cyprien Signy et votre bande. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir, face au trafic de drogue, on ouvrira le grand débat de la légalisation avec un expert. Et puis on vous parlera de coq, de psy et d'Éric Ciotti.
Tout au long de l'émission, des points météo avec vous, Peggy Broche. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Très ensoleillé au nord et instable et nuageux au sud.
On y revient dès la fin du journal.
RTL Soir.
Et donc les premières heures de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, il vient tout juste d'arriver dans les quartiers nord.
Et dans une ville qui a connu 12 règlements de compte mortels en 2 mois sur fond de trafic de drogue. C'est par le volet sécuritaire et par un bain de foule aussi que la visite présidentielle commence en ce moment.
Précisément dans le quartier de Bassins, donc au nord de Marseille. Étienne Baudu, vous suivez cette visite pour RTL. Visiblement, le chef de l'État était très très attendu, hein.
Ah oui, je peux vous dire qu'il était très très entendu. Et d'ailleurs là, pour faire 50 mètres là, entre sa voiture et la porte de l'association dans laquelle il va, participer à une petite réunion, il a bien mis 20 minutes hein, pour traverser une foule qui dit. Alors évidemment hein, les selfies, les hurrahs. Il y avait même une dame qui lui demandait: vous m'aviez promis de jouer au foot avec nous ici. Il lui a fait un petit clin d'œil. Il lui dit oui mais pas aujourd'hui. Évidemment, avec le monde qu'il y a, on est pire que c'est pire qu'à l'OM. Alors évidemment, et il a été apostrophé aussi hein, par des gens, on en écoute un extrait.
Mais ce qui a perdu notre ville, c'est un peu les arrangements entre amis, le copinage, tout ça. Donc maintenant, apparemment, vous allez débloquer des fonds pour ces quartiers sensibles. Il faudrait une traçabilité dans tout ça.
Alors une traçabilité, effectivement, de cet argent. Je suis avec une habitante de la cité Fonds Vert, qui est à 2 pas d'ici. Rachida, vous voulez effectivement savoir ce que va devenir cet argent?
Oui, puisqu'il y a tellement eu d'argent géré à Marseille, on ne sait pas où c'est qu'elle est. Sauf qu'aujourd'hui, on nous annonce un nouveau plan. Mais pareil, nous, on veut qu'il y ait un contrôle d'argent, c'est-à-dire mettre une tutelle sur cet argent ou mettre des commissaires. Parce que j'ai entendu la mairie centrale dire on va mettre des comités, mais c'est toujours pareil, hein, c'est toujours les mêmes qui vont gérer. Et on veut savoir voilà, comment va être géré l'argent.
Vous voyez, les habitants de ces quartiers veulent justement avoir un droit de regard sur cet argent qui va être dépensé. Et effectivement, par exemple, ici, dans la cité Bassins, c'est une cité qui est dans l'avenir, qui va être détruite hein, pour laisser place à un projet ferroviaire.
Le reportage en direct auprès des habitants des quartiers nord, signé Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
Le chef de l'État qui va aussi s'atteler demain avec la rentrée des classes à un autre gros dossier marseillais, celui des écoles, en grande partie délaissées dans la ville. On va y revenir justement avec Étienne qui suit cette visite. On fera un point très précis sur l'état des écoles marseillaises. Et il y a des choses à dire avec la brigade RTL dans quelques minutes.
Programme chargé donc pour le chef de l'État et une ficelle un peu grosse pour Jean-Luc Mélenchon.
Je supporte pas ça. Le gars qui arrive, on est à 8 mois de l'élection présidentielle, tout le monde comprend qu'il est en campagne électorale. On est tous priés de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Bon, moi, je vais quand même dire qu'ici, c'est le pèlerinage des promesses. Valls, il était venu avec 9 ministres, dont Macron. Donc on peut dire, le gars, il connaît le métier, quoi, hein, de promettre des trucs qui n'ont pas lieu. Et ils avaient dit qu'ils feraient de la réhabilitation, toutes sortes de choses. Moi, je suis le dernier arrivé à Marseille, donc je me tiens prudemment à ma place, modestement au bout de la table. Il faut faire attention, les gens ici sont exaspérés.
Voilà Jean-Luc Mélenchon qui était de ces élus hein, qui ont accueilli tout à l'heure le chef de l'État à la mairie de Marseille. Pendant ce temps, à Matignon, la rentrée sociale s'organise. Syndicats et patronats reçus à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi par Jean Castex. C'est le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui a ouvert le bal et qui, d'emblée, a annoncé la couleur sur un dossier que le chef de l'État n'excluait pas de relancer il y a peu.
Le Premier ministre ne nous a pas parlé d'une réforme des retraites, très clairement. Il nous a demandé, sur le sujet des retraites, qu'est-ce que vous en pensez d'une concertation. Mais ce qu'on a dit, on verra à la fin, ce qu'on a dit, c'est que pour la CFDT, il n'y avait pas de concertation à avoir sur le sujet des retraites, puisqu'il n'y avait pas de voie de passage avant 2022 sur une quelconque réforme. Mais traiter du sujet des retraites avec un gouvernement pour nourrir le programme d'un candidat, ça n'a pas de sens.
Alors, quid de cette réforme des retraites ? Dans moins de 10 minutes maintenant, le chef de file de la CGT, Philippe Martinez, sera notre invité dans RTL Soir.
Vous avez plus de 65 ans, vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois. Eh bien, dès aujourd'hui, vous pouvez recevoir votre troisième injection anti-Covid.
Et d'ailleurs, dès le début de la semaine, 200 000 rendez-vous ont été pris pour ce rappel, attente que vous avez constatée justement dans un centre de Rueil-Malmaison, Gauthier de Lombugard.
Box numéro 2, au fond de ce gymnase transformé en centre de vaccination. Rosalène s'installe pour la consultation pré-vaccinale avec le médecin.
Pour une première ou une deuxième dose ?
Troisième.
Une troisième dose, d'accord. Vous avez quel âge ?
67 ans.
Encore en poste au début de la crise, cette infirmière, désormais à la retraite, a pu bénéficier de la campagne de vaccination à destination des soignants.
C'était fin janvier.
Cela fait donc plus de 6 mois qu'elle a reçu ses deux premières doses de Pfizer.
Je viens parmi les premières personnes de façon à ce que ça soit réglé. Pour moi, c'est important de faire une troisième dose pour ce virus qui mute tout le temps. Quoi.
Patient âgé depuis 65 ans, patients avec des pathologies chroniques, j'invite toutes les personnes concernées à venir se faire vacciner pour une troisième dose.
Le bras posé sur la cuisse.
Sur les 1200 créneaux du jour, 32 ont été réservés pour des troisièmes injections. Pauline Gâteau, responsable du centre.
La prise de rendez-vous augmente progressivement au fur et à mesure que les jours vont passer. Pour demain, j'ai près de 70 rendez-vous. Après-demain, le 3 septembre, 80 rendez-vous.
Rosalène repart donc avec un nouveau QR code.
Je vais me mettre devant ma télé en rentrant avec un grand verre d'eau.
Un cachet de paracétamol et du repos. Première, deuxième, troisième injection pour parer aux effets secondaires. Les consignes restent inchangées.
Un reportage à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, signé Gauthier de Lombugard pour RTL.
Et votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir, de rebondissement en rebondissement. L'incroyable procès d'un baron de la drogue à Bordeaux. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL, la suite de votre journal, Marion Calais à 18h09, de suspension d'audience en bataille de procédure à Bordeaux. L'improbable procès de Mouf, surnommé le Pablo Escobar français.
Après 10 ans de cavale et une extradition de Dubaï, le quadragénaire est jugé pour avoir importé en France des centaines de kilos de cannabis. Philippe de Maria, vous suivez ce procès pour RTL. Ça fait près de 9 heures que les audiences ont commencé et pourtant le fond de l'affaire n'a toujours pas été évoqué.
Exactement, les GoFast de 2011-2012 n'ont toujours pas été évoqués. Moufid Bouchidi arrive malade ce matin dans son box. Il faut dire qu'il a été extrait de la prison de Gradignan qui, on vient de l'apprendre, est confiné. C'est devenu un cluster Covid. Mouf, c'est son surnom, va donc voir un médecin, première suspension. Il est déclaré apte, mais ses trois avocats déchaînés s'en prennent alors au procureur qui n'aurait pas été régulier dans la procédure d'extraction de la prison. Prise de bec violente, le président président est absolument dans les cordes. Le procureur, lui, devient muet. Nouvelle suspension. Et on aborde alors la légalité de son extradition de Dubaï. Quand il est remis aux autorités françaises au printemps dernier, la procédure qui existe entre Dubaï et la France n'est pas complète, pas respectée. Donc Mouf, présenté comme le plus gros dealer français, ne pourrait pas être jugé en France selon ses défenseurs. Nouvelle suspension. Mouf a dit deux phrases en tout et pour tout dans son box. D'abord, qu'il était malade et enfin, ses lieux et date de naissance.
Six suspensions d'audience, donc procès suivi par Philippe de Maria à Bordeaux pour RTL. Ils sont encore quelques dizaines bloqués en Afghanistan. Des Français qui n'ont pas pu profiter du pont aérien mis en place après l'arrivée des talibans au pouvoir. Et l'un d'eux témoigne ce soir sur RTL.
Ce restaurateur lyonnais franco-afghan est parti en vacances au mois de juin avec sa famille pour voir son frère. Trois mois plus tard, alors que les opérations, on le sait, d'évacuation sont terminées, il est toujours bloqué sur place, Valentin Boisset.
Oui, un retour de vacances qui vire donc au calvaire. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de prendre l'un des avions de rapatriement. Chapour s'est rendu plusieurs fois à l'aéroport de Kaboul la semaine dernière avec son passeport français et sa famille, mais la queue était trop longue.
Moi, j'ai avec trois enfants et que ma fille a trois ans. C'était difficile d'attendre dans la queue pendant 10 heures, pendant 15 heures pour rentrer dans l'aéroport. C'était pas possible. J'ai essayé deux, trois fois, mais j'ai laissé tomber et j'ai rentré à la maison.
Depuis, il loge donc chez son frère afghan, loin de son domicile lyonnais. Il doit gérer ses trois commerces à distance, dont une pizzeria qui tourne grâce à ses employés. Mais ce qui l'inquiète le plus, ce sont ses enfants de 3, 6 et 8 ans qui devaient rentrer demain dans leurs écoles de quartier.
Ma grand-fils qui a 8 ans, elle a pleuré. Il a envie d'entrer à Lyon pour aller à l'école. Je l'ai calmé un petit peu, je l'ai expliqué. Voilà, le Taliban a pris le pouvoir à l'aéroport, partout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Les frontières, elles sont tout fermées avec les frontières des voisins au Pakistan.
Des routes du Pakistan qu'il a donc un temps envisagé d'emprunter. Elles sont effectivement tenues par les talibans. Désormais, il s'en remet à son avocate française, démunie tant que la situation de l'aéroport ne se décantera pas.
L'attente et l'angoisse qui se prolongent donc pour ce franco-afghan toujours bloqué en Afghanistan. Son témoignage avec vous, Valentin Boisset. Merci.
RTL Soir.
Et c'est reparti pour les Bleus, désormais entièrement tournés vers le Mondial 2022 au Qatar.
Quatrième match de qualification pour les hommes de Didier Deschamps qui sont en tête de leur groupe. Rendez-vous ce soir à 20h45 avec la Bosnie-Herzégovine. Ce match, on va le suivre avec vous sur RTL, Philippe Sansfourche. Match de reprise pour faire oublier l'échec de l'Euro.
Oui, avec une double obligation de victoire évidemment, mais aussi d'enthousiasme collectif pour renvoyer de suite l'image d'un groupe soudé qui ne traîne pas derrière lui les petits conflits internes de l'Euro, avec le lot d'incertitudes habituelles pour le premier rassemblement de la saison, des têtes encore embrumées par le feuilleton du mercato, des états de forme disparates et des blessures de dernière minute. N'Golo Kanté et Corentin Tolisso sont ainsi forfaits. Adrien Rabiot et Matteo Guendouzi vont rejoindre le groupe. L'occasion peut-être en attendant ce soir pour un petit nouveau de faire ses premiers pas en bleu, le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouaméni.
Aujourd'hui, je ne me prends pas forcément la tête. Je suis très content d'être là. J'espère pouvoir disputer des minutes pour montrer mes qualités et apporter ma pierre à l'édifice. Après, je suis là pour aider le groupe France, pour pouvoir gagner en expérience, tout simplement.
Un peu de jeunesse pour la fraîcheur, mais Didier Deschamps voudra surtout ce soir retrouver les vertus défensives et la solidité du groupe qui avait conduit à la victoire finale en Coupe du Monde.
Philippe Sansfourche à Strasbourg, France-Bosnie à vivre sur M6 et RTL. Rendez-vous dès 20h40 sur notre antenne.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Qui nous emmène à Plozévé dans le Finistère.
Ah, où... déjà c'est bien.
Voilà, déjà c'est un bon point. Où deux annexes d'un manoir se sont avérées être une caverne d'Ali Baba. Nous sommes en 2019. Trois tailleurs de pierre sont en train d'effectuer des travaux quand soudain tombent à leurs pieds un coffre et des pièces dissimulées dans un mur. Trois jours plus tard, c'est une bourse en tissu qu'ils découvrent au-dessus d'une poutre. Au total, plus de 200 pièces d'or remontant à Louis XIII et Louis XIV, dont certaines particulièrement rares, confiées à une maison de vente. Le trésor, accrochez-vous bien, est estimé à plus de 250 000 euros qui seront répartis après la vente fin septembre entre les propriétaires et les tailleurs de pierre qui ont fait la découverte.
Ben, je vais peut-être faire des travaux à la maison, moi. Merci Marion Calais, à tout à l'heure. Le temps maintenant, Peggy Broche, ça se gâte au sud, c'est ça?
Exactement, Julien, avec un ciel bien chargé déjà demain matin dans le sud-ouest, des averses orageuses mais uniquement sur les Pyrénées, ailleurs du très beau temps. Après dissipation de quelques grisailles grisaille matinale sur les côtes de la Manche. Ça restera très ensoleillé sur une large moitié nord du pays. Et puis au sud d'une ligne, La Rochelle-Grenoble. Là, les nuages seront nombreux l'après-midi. Les averses orageuses vont gagner les plaines du sud-ouest et le golfe du Lion. Et puis le temps sera également plus nuageux et plus humide sur les Alpes. Les températures en légère hausse au nord, 18 à Cherbourg, 22 à Lille, 25 à Paris et Strasbourg, 28 à Bourges et Lyon, ainsi qu'à Toulon et 29 à Montélimar.
Merci Peggy.
Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, 18h16 et on va aller plus loin maintenant, au moment où Emmanuel Macron, vous le savez, attaque sa visite à Marseille. Nous étions à ses côtés, au plus proche du président dans les quartiers nord à l'instant dans le journal. Son plan colossal pour la ville doit être dévoilé demain. L'axe numéro un, c'est visiblement l'école. Murs décrépits, plafonds qui s'effondrent, rats dans les classes, impact de balles dans les fenêtres, amiante dans les murs. À quelques heures seulement de la rentrée, situation catastrophique. On va justement poser trois questions à la brigade RTL. Rebonsoir Étienne Baudu.
Rebonsoir Julien.
Vous suivez donc le président en ce moment même à Marseille pour RTL, où vous êtes notre correspondant et vous connaissez parfaitement ce dossier. Son chèque pour les écoles est très très attendu. On l'a entendu d'ailleurs dans le journal de 18h. Il était interpellé directement par des habitants des quartiers nord. Est-ce que ce chèque peut permettre cette fois-ci une réelle rénovation, parce que c'est un dossier qui est vieux de 20 ans?
Peut-être oui, car vous l'évoquiez, la situation est catastrophique et elle ne date pas d'hier. Ce sont des décennies de laisser-aller. Au-delà des rats, des punaises de lit dans les dortoirs, des chauffages qui tombent en panne en plein hiver ou de la pénurie de papier toilette. En fait, ce sont des écoles entières qu'il faut reconstruire de fond en comble. Cette école primaire dans le 3e arrondissement, par exemple, entièrement montée en préfabriqué. Promis juré, elle disparaîtra dans 2 ans. C'est écrit sur un panneau qui a été posé il y a aujourd'hui plus de 5 ans. Et quand il pleut, oui, ça arrive à Marseille, eh bien, les plafonds de ces préfabriqués lâchent et les classes sont inondées. On peut parler aussi de ces 55 écoles construites dans les années 60 et restées telles quelles dans leur jus. Structures métalliques fragiles, plaques d'amiante dans les murs, certaines installées sur des terrains pollués. Des écoles potentiellement dangereuses donc. Enfin, il y a aussi ces travaux d'entretien courant ubuesques. Un agent de la ville vient réparer le portail d'une école, mais il oublie sa caisse à outils. Le directeur téléphone, l'agent ne reviendra qu'une semaine après la récupérer. Le directeur s'était posé la question, mais qu'a bien pu faire cet agent pendant une semaine sans ses outils?
C'est vrai qu'on peut se poser la question, effectivement. Bon, Étienne, c'est un tableau extrêmement noir que vous nous décrivez. Est-ce qu'avec la nouvelle municipalité, la situation a évolué ?
La situation, non, c'est trop tôt, évidemment. La volonté, en revanche, sans doute. Un premier budget de 85 millions d'euros a été voté et 170 écoles sur les 470 que compte la ville ont été classées comme prioritaires pour leur réhabilitation. Tout sera refait de fond en comble. Cette école du 15e arrondissement, par exemple, va être totalement désossée. Reprise complète de la structure, désamiantage des murs et du revêtement, nettoyage des sols pollués, budget 22 millions. Le gymnase, qui est fermé depuis des années, sera lui reconstruit mais dans une nouvelle optique. Il bénéficiera bien entendu aux élèves, mais il sera aussi ouvert sur le quartier pour que les associations puissent en profiter. C'est la notion d'espace partagé. Ailleurs, ce sera la bibliothèque de l'école qui sera accessible aux habitants des alentours.
Mais Étienne, avec 85 millions d'euros, vu l'ampleur des travaux, on ne va pas très loin.
Non, bien sûr, c'est une goutte d'eau. D'ailleurs, la municipalité a avancé le chiffre d'1 milliard d'euros pour remettre sur pied les écoles marseillaises. Évidemment, la ville de Marseille n'en a pas les moyens. Marseille reste une ville pauvre, d'où l'aide indispensable de l'État. La situation pourrait ainsi s'améliorer plus rapidement et plus efficacement, sans doute. Car aujourd'hui, le stade de l'urgence est dépassé depuis longtemps ici à Marseille.
Oui, on l'a compris. Merci beaucoup, Étienne. L'attente est immense. Et évidemment, dans RTL Soir, on va continuer de suivre avec vous, Étienne, avec les autres envoyés spéciaux de RTL, cette visite d'Emmanuel Macron qui est donc en ce moment dans les quartiers nord de Marseille. Une courte pause et ensuite Philippe Martinez sera notre invité. Le leader de la CGT appelle à descendre dans la rue le 5 octobre et dès demain, il rencontrera le Premier ministre Jean Castex. Passe sanitaire, retraite, assurance chômage, la rentrée sera-t-elle brûlante? A tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée, vous écoutez RTL, 18h22, c'est l'homme qui appelle à manifester contre le gouvernement, Philippe Martinez, et ce soir notre invité. Bonsoir Philippe Martinez.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général de la CGT, vous appelez à descendre dans la rue le 5 octobre. Demain matin, vous allez rencontrer de bonne heure Jean Castex, 45 minutes d'entretien avec le Premier ministre qui reçoit, on le rappelle, depuis cet après-midi, les partenaires sociaux. Retraite, assurance chômage, passe sanitaire, les sujets brûlants ne manquent pas. Juste avant d'évoquer tous ces dossiers, Un mot sur Marseille, parce que c'est l'actualité du jour. Emmanuel Macron doit annoncer son plan. Il est en visite en ce moment dans les quartiers nord. Ça y est, il est en campagne, le président, selon vous? C'est l'avis de Jean-Luc Mélenchon.
Je ne sais pas s'il est en campagne. En tout cas, ce que je sais, c'est que toutes les promesses qui ont été faites aux habitants de Marseille depuis des années, vous l'avez eu l'occasion de le rappeler, vous avez évoqué déjà Jean-Marc Ayrault, ça date. Il faut que les promesses deviennent des actes. Et je pense que les citoyens de Marseille, les enfants, par rapport à leurs écoles, ont besoin d'actes concrets pour qu'ils puissent avoir une vie sociale, une vie éducative digne de ce nom.
Revenons sur tous ces dossiers que vous allez évoquer à Matignon demain, sur ce pass sanitaire notamment qui est à la une. Alors, obligation depuis hier pour 2 millions de salariés. Vous y êtes opposé, vous dites que le pass sanitaire est incohérent. Pourquoi ? Parce qu'un serveur de restaurant doit le présenter alors qu'un employé de crèche n'en a pas besoin. Ce n'est pas logique pour vous ?
Premièrement, ça génère des discriminations. Il y a beaucoup de précaires, de CDD, d'intérimaires qui sont discriminés par rapport à ça et qui peuvent perdre leur contrat à cause de ça. La deuxième chose, c'est cette notion de contact avec le public, elle est mal définie. Elle est très mal définie. Et donc, là aussi, il y a des employeurs qui vont abuser de cette situation pour sanctionner, voire licencier. Donc c'est pas normal. Nous, on dit depuis le début, il faut la vaccination, c'est important, et là-dessus, on est clair. Mais plutôt que de réprimer, il faut expliquer. Il y a encore beaucoup de gens, par exemple, qui aimeraient bien se faire vacciner, mais qui ont des difficultés pour le faire. Je pense aux travailleurs de deuxième ligne, aux travailleuses surtout, qui ont des horaires atypiques, etc., etc. Donc c'est un vrai sujet. Mais on va pas parler que de ça, parce qu'il y a des sujets essentiels.
Bien entendu. Juste pour terminer sur ce pass sanitaire, je voudrais juste revenir sur une de vos déclarations. Vous avez dit tout ce qui est obligatoire ne fonctionne pas. On a en ligne, parce que vous le savez, dans RTL Soir, les auditeurs peuvent commenter l'actualité tous les soirs, un médecin généraliste au 3210 qui est tenté de vous contredire. Bonsoir Marcelin.
Bonsoir Julien, bonsoir Monsieur Martinez.
Vous
bonsoir.
Nous appelez de Vendée. Vous avez constaté un effet passe dans votre cabinet ?
Clairement. Après-midi, par exemple, j'ai à nouveau vacciné des gens qui travaillent dans la restauration, qui se voient un peu contraints à se vacciner. Et je pense que c'est quand même un problème de sécurité pour les clients aussi. Et donc, moi, en tant que client de restaurant, si je vais dans la restaurant, j'ai envie d'avoir affaire à des gens qui sont enceintes.
Merci Marcelin. Philippe Martinez, c'est vrai que les chiffres montrent un effet passe sanitaire. On a 87% de soignants vaccinés avec au moins une dose aujourd'hui dans les EHPAD. C'était 57% il y a deux mois. 30 points d'écart, l'obligation, ça fonctionne.
C'est pas forcément l'obligation. Vous avez constaté qu'en deux mois, la question des rendez-vous, elle a évolué. Il fallait attendre longtemps. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup insisté pour que, plutôt qu'on aille vers la vaccination, vous savez, on peut ouvrir des stades de 80 000 places, si les gens peuvent pas y aller. Donc, on a demandé à ce que les vaccins viennent vers les citoyens. On avait demandé des bus. Apparemment, on a demandé à ce que les salariés soient payés quand ils se font vacciner, c'est-à-dire sur leur temps de travail. Mais il a fallu 4 mois pour expliquer tout ça. Et donc, évidemment que quand je vois les jeunes, vous en connaissez comme moi, vous êtes jeunes d'ailleurs, quand on leur dit vous pouvez plus aller au cinéma, vous pouvez aller plus en boîte, forcément, ceci dit, insistons pour faciliter la vaccination et puis discutons avec ceux qui sont anti-vax. Parce que c'est pourquoi ? Et il y a bien autre chose que la question de la vaccination, notamment dans le personnel soignant, même si ça reste une minorité de personnes qui ne veut pas se faire vacciner.
Alors venons-en maintenant au volet social de la rentrée, la réforme des retraites. Quand on entend les membres du gouvernement, on a du mal à savoir si oui ou non elle sera lancée avant la présidentielle. Position officielle, pour l'instant on gère le sanitaire, ensuite on verra. À l'instant la CFDT qui sort elle aussi de Matignon a dit s'il y a concertation ce sera sans nous. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a renoncé ?
Je ne suis pas sûr qu'il ait renoncé, mais vous voyez, on a des points d'accord avec la CFDT. S'il y a concertation, ça sera sans nous. Parce qu'il y a eu suffisamment de débats sur les questions de retraite. Et donc, si c'est pour nous dire on va discuter du recul de l'âge de la retraite, ça sera sans nous.
Voilà, est-ce que vous avez des signaux aujourd'hui qui vont dans le sens d'un enterrement de cette réforme ? Qu'est-ce qu'on vous laisse entendre aujourd'hui à Bercy et à Matignon ?
Je
ne
suis pas dans les secrets du gouvernement. Nous, on a été clairs, on est clairs depuis le début. Et quand tous les syndicats ont la même position, je pense que ça mérite une oreille attentive. Donc, cette question, on ne dit pas qu'elle n'est pas importante, mais pas en forçant la main des citoyens et des syndicats sur le fait de dire il faut travailler plus longtemps. Vous savez qu'on a des arguments pour dire que ce n'est pas la solution de travailler plus longtemps.
Autre réforme que vous comptez combattre dans la rue, celle de l'assurance chômage qui durcit les conditions d'accès aux droits. Désormais, Emmanuel Macron veut une application là, intégrale, dans un mois, le 1er octobre. Est-ce que votre mobilisation du 5 octobre n'arrive pas un peu tard ?
Premièrement, on a commencé avant et on a fait ce qu'il fallait pour empêcher cette deuxième phase de la réforme.
Parce que le Conseil d'État, là,
exactement, ce sont des recours syndicaux et on va continuer à faire un certain nombre de choses. On ferait mieux de s'occuper de l'emploi, donc de trouver du boulot à ceux qui n'en ont pas, plutôt que de réprimer les chômeurs. C'est ça, la réforme que propose M. Macron. Eh bien, nous, on préfère travailler sur les questions d'emploi et on a des tas de propositions, on les a déjà faites au gouvernement, pour, vous savez, ces fameux emplois qui ne trouveraient pas preneur. On dit augmenter les salaires, parce que quels sont ces emplois ? C'est les emplois les plus mal payés, les plus difficiles au niveau conditions de travail. Voilà des sujets qui méritent qu'on s'y attache, plutôt que d'essayer de faire croire que ceux qui sont au chômage, officiellement, parce qu'il y en a beaucoup plus que les chiffres officiels, seraient des feignants et qui ne voudraient pas travailler, vous voyez ?
Dernière question. On a pu lire dans le Canard enchaîné que vous ne comptiez pas aller à la fête de l'UMA parce que la location de stand était trop chère. C'est dans 10 jours. Vous allez vous y rendre à la fête de l'UMA ?
Donc vous voyez, vous serez sûrement d'accord avec moi, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux. Évidemment, parce que c'est un lieu où il y a des débats, justement, des débats, et donc j'aurai l'occasion de débattre d'ailleurs avec un membre du gouvernement, je crois, parce que moi j'aime les débats contradictoires qui permettent aux citoyens de se faire une opinion. Et puis, c'est dommage que le Canard enchaîné, traditionnellement, donne des bonnes informations. Je trouve que ça ne grandit pas ceux qui écrivent ce genre de propos, surtout que vous l'avez peut-être vu ce matin, quand on évoque Philippe Merguez.
Je trouve que même si j'ai beaucoup d'humour dans la
situation actuelle, ce genre de propos un peu caricaturaux est un peu déplacé.
Merci Philippe Martinez.
Merci à vous.
Vous croiserez à la fête de l'UMA Fabien Roussel, qui sera l'invité d'Alba Ventura demain matin sur RTL à 7h40.
Eh bien, vous direz bonjour à Alba Ventura de ma part.
Très bien, à Fabien Roussel aussi, j'espère. Merci Philippe Martinez. Une pause et dans un instant, RTL Soir continue dans les dessous de l'actu toute la semaine. Ils racontent leur 13 novembre, des documents saisissants, bouleversants à une semaine du procès des attentats. Dans un instant, vous allez entendre le patron de la Belle Équipe. Sa terrasse a été attaquée, il a perdu 10 de ses proches et pourtant, il a voulu rouvrir au plus tôt.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL Soir,
avec Julien Cellier.
Et il est 18h32.
Mémoire du 13 novembre.
Ils racontent leur 13 novembre toute la semaine dans les dessous de l'actu à cette heure-ci. Des témoignages rares, nécessaires à une semaine tout juste du procès des attentats. RTL a recueilli la parole de rescapés. Ils ont côtoyé la mort lors de cette soirée de terreur. 130 victimes, on le rappelle, à Paris et Saint-Denis. Ce soir, c'est Grégory Rebenberg qui se confie. Le patron de la Belle Équipe, sa terrasse a été attaquée. Il y a perdu 10 de ses proches et pourtant, très vite, il a pris la décision de rouvrir au plus tôt pour ne pas céder face à l'obscurantisme. C'est un document RTL.
Les événements sont arrivés vendredi. Le dimanche, il y avait une envie collective de se faire une marche à la baie équipe. Je voulais pas y aller parce que je savais que ça allait être sûrement dur émotivement. J'ai pas eu le choix et là, je suis arrivé devant. Et ben, ma grande surprise de voir tous ces passants qui venaient jeter des fleurs. J'arrive devant la baie d'équipe, il y avait peut-être, je sais pas moi, 30 cm d'épaisseur de parvis de fleurs. Je me suis, entre guillemets, précipité sur tous les mots qu'il y avait. Il n'y avait que de l'amour et de l'intelligence dans tous les mots qui étaient là. Il n'y avait aucun mot de haine, de violence, enfin bref. Et là, dans ma tête, je me suis dit, je réouvrirai. C'est arrivé comme ça. Je me suis dit, non, je ne peux pas ne pas réouvrir, ils vont aller se faire foutre. On ne va pas leur faire ce cadeau. Et quoi qu'il arrive, en tout cas de mon vivant, ce sera toujours un café-restaurant, quoi qu'il arrive. J'ai fait le choix de dire ça peut plus être le même endroit. Il est hors de question de désigner là où telle personne est tombée, là où telle mort est venue. C'est hors de question. J'en ai profité pour agrandir la terrasse de la Belle Équipe et la faire encore plus grande, encore plus ouverte au monde. Et oui, je suis très content de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je vais très bien. J'ai perdu Jamila, donc la mère de ma fille. Donc, et d'autres qui faisaient partie des gens. Enfin, c'est des gens qu'on dormait chez moi, qui faisaient partie de ma vie. Il y en a 20. Heureusement, j'en connaissais que 10, mais c'est quand même beaucoup. Et puis, c'est des morceaux de vous qui s'en vont. Voilà, donc c'est pas... Oui, ça c'est dur. Et puis des fois, ça revient. Vous savez, des fois, je me suis retrouvé à prendre une vague d'émotions que je m'attendais pas. C'était lors de la dernière finale de Coupe du Monde. Et 3 minutes avant le coup de sifflet final, donc nous avions gagné, j'étais très très heureux. Et j'étais débordé parce que j'ai pensé à tous ceux qui sont partis. Là, à ce moment-là. Et j'ai pas été très bien pendant une demi-heure. Après, j'ai pensé à eux positivement, mais pendant une demi-heure, je me demandais où ils étaient. Ça, c'est chiant parce que ça n'a pas prévenu. Voilà, moi, je le vis comme ça. Aujourd'hui, elles sont fermées, mes cicatrices, mais elles sont là. Et avec la vie particulière, avec une cicatrice, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre posture possible pour avancer positivement. Voilà.
Document RTL, Grégory Revenberg, patron de la belle équipe, l'une des terrasses attaquées le 13 novembre 2015 avec Thomas Proutot pour RTL, à 7 jours donc maintenant du procès des attentats. Vous allez entendre encore tout au long de la semaine, ici même dans RTL Soir et dans tous vos autres rendez-vous d'infos de tels témoignages. Demain, le récit de Xavier Espinasse, il dirigeait alors en 2015 les experts de la police scientifique.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL, 18h36.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, vous écoutez RTL, on va s'aérer maintenant avec Laissez-vous tenter, dernière. Vous connaissez le principe, la bande de LVT vous livre chaque soir, et c'est une chance. On va parler musique avec vous, Steven Bellery, bonsoir.
Bonsoir à tous.
2 ans après Les Oubliés, Gauvin Serre vient de publier son 3e album, baptisé Ta place dans ce monde.
Ouais, 12 chansons, façonnées avec le réalisateur Renaud Létang, vous savez, c'est un complice de Souchon, ouais. Qui du coup l'amène vers un univers un petit peu plus produit, exemple avec La France des gens qui passent.
Ceux qui sourient ou boivent la tasse, et c'est la France des gens qui passent. Ceux qui sourient ou boivent la tasse, la France des gens qui passent.
Il y a toujours des petites histoires. Gauvin raconte le destin d'un convoyeur qui s'enfuit avec son camion, chante l'ennui d'une mamie de la cité Timonier qui attend sa petite fille. Le Creusois de 31 ans ajoute toutefois à sa recette un soupçon de romantisme bienvenu. Il remercie ainsi sa compagne avec Elle était là.
Quand le marchand d'ambition me disait ce sera dur, lui qui vend des chansons comme on vend des chaussures. Quand je marchais dans la rue, la dégaine de travers, quand j'étais reconnu, mais seulement par ma mère. Quand je rêvais d'une complice pour braquer l'industrie, quand le mec des coulisses me disait vous êtes qui. Quand je jouais dans les bars et que les gens se souciaient vachement moins de ma guitare que des verres qui trinquaient. Elle était là, elle était déjà là, bien avant tout ça.
Alors Gauvin Serre, il impose petit à petit sa plume, on l'entend dans la chanson française, c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus.
Ouais, avec un prisme pour les gens de l'ombre, dans l'imprévu, il raconte son rapport aux chansons.
J'avais qu'une serviette en papier, quand j'ai croisé l'inspiration, elle se fait rare, vous comprenez, ça vous prévient pas une chanson.
C'est vraiment très souvent le cas et c'est très fulgurant. Et la chanson, elle me tombe toujours dessus, le sujet, l'angle surtout. L'inspiration, ça nous tombe dessus, c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui me fait flipper aussi. Quand je finis une chanson, je me dis, mais ça se trouve, ça va jamais revenir.
Est-ce qu'après 3 disques, votre manière d'écrire a évolué, a changé?
Je pense un peu, heureusement d'ailleurs. Peut-être on sait un petit peu plus ce qu'on veut raconter. On essaye de le raconter peut-être avec moins de mots aussi.
Vous pensez qu'une chanson, ça peut semer une petite graine?
J'ai peut-être la jeunesse et l'utopie d'y croire encore, ouais. Je repense à l'ado que j'étais dans mon lit à écouter des chansons que je comprenais pas forcément à 13-14 ans sur des sujets qui me dépassaient totalement, mais qui m'ont permis d'éveiller ma conscience. Et j'ai le fol espoir que ça puisse être le cas quand j'attaque un sujet.
Chaque jour à la cafetière, le racisme ordinaire, mais les petits ruisseaux font les grandes colères. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain, au verre à moitié plein.
Gauvin Serre, c'est déjà en tournée. Ta place dans ce monde vient de sortir.
Voilà, on vous conseille de l'écouter ce soir. C'était le bon conseil de Steven Bellery. Merci beaucoup, Steven. Et on vous retrouvera demain matin avec la bande de Laissez-vous tenter. L'émission, c'est tous les jours, on le sait, 9h, 9h30. Et l'écrivain Tanguy Viel sera votre invité demain pour son nouveau roman. C'est un coup de cœur, Laissez-vous tenter. De la rentrée. À demain, Steven. Allez, on marque une petite pause avant On défait le monde jusqu'à 19h dans RTL Soir. L'info autrement avec un regard plus inattendu. La bande de Cyprien Signy entre en studio.
On est là.
Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bonsoir les amis. Dans un instant, cette question au moment où Emmanuel Macron visite les quartiers nord de Marseille. Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis pour assécher le trafic? Vraie ou fausse bonne idée? Réponse juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.